Le Beatnik Show. Le show de rap avec le meilleur flow. À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
On a eu une grosse semaine pareille, hein? Ben, installe-toi bien confortablement parce que je vais te faire un petit résumé de tout ce que t'as manqué de l'actualité en une heure de radio. Voici tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes en ce beau début de soirée de ce samedi le 17 juillet 2021. C'est Guillaume Bédard qui vous parle au micro des ondes de Chiz 94.3 pour votre revue de l'actualité de la semaine. Écoutez, on a quand même eu une bonne semaine. On a cinq gros sujets qu'on va vouloir aborder. Aujourd'hui, on va parler de passeport vaccinal, on va parler de loterie vaccinale, on va parler des déboires d'Éric Duhaime qui essaye de s'inviter dans des restaurants, on va parler de nominations partisanes dans le milieu des arts et de la culture. Ça fait beaucoup réagir, ça. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup réagir. Et finalement, on va parler de la mort du projet Laurentia et pourquoi est-ce qu'il faut encore qu'on en parle un petit peu avant d'enterrer cette histoire-là. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro pour une petite heure de radio en joie, en plaisir, mais surtout en chansons et en musique. Et on va commencer avec Alex Burger et sa chanson « Sweet Montérégie ».
Chanter des chansons dans un village près de chez vous. Oh, les montagnes ne se prennent pas par la main et ça jase pas trop fort à son voisin. Non, ça jase depuis du gaz à tour de bras, à tour de bras. Où tourne le café crème ici et là. Les étés sont cruels et les criquets enterrent la nuit. Les hivers donnent envie d'avoir un peu de peine. Sweet, 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 sweet Montérégie. Ben ouais, ben ouais. Sweet, 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 sweet Montérégie. Back. Que je me confesse, c'est ici que j'ai lâché l'école. C'est ici que j'ai brûlé mon auréole. Je te jure, tu peux me croire si je te raconte que tu peux tout voir à la commande à l'auto. Une bataille du gros fun, la racaille. Montérégie, ben ouais, que j'ai quitté le coin pour une île où les étoiles sont éteintes. À tous ces gens, je vous réponds, venez-vous-en, je vous attends. On va se caler une douce, puis je veux style déclencher au pot. Sweet, 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 sweet.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard au micro à Avant de sortir, votre revue hebdomadaire de l'actualité. On écoutait Sweet Montérégie par Alex Berger. Écoutez, on va plonger directement dans le vif du sujet. On va s'en aller avec un petit duo de sujet quand même. Il faut absolument qu'on parle du passeport vaccinal et de la loterie vaccinale. Bon, c'est quoi ces deux choses-là? C'est les dernières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement du Québec pour lutter contre la pandémie de COVID-19, parce que, ben non, c'est pas terminé, cette affaire-là. On pourrait le croire un petit peu en se promenant partout. On voit, on a repris les bars, on a repris les sorties, les gyms ont rouvert, les spectacles ont rouvert, les festivals ont rouvert, tout à peu près a rouvert. Même si c'est avec des masques, il y a encore de la distanciation, tout le monde doit se laver les mains, il y a du Purel encore un petit peu partout. Mais on n'est pas encore complètement sorti du bois, parce que dans la dernière semaine, on a quand même eu 441 nouveaux cas à la grandeur de la population québécoise. Bon, c'est sûr que c'est pas énorme, ça fait une moyenne d'un peu moins de 50 cas par jour, ce qui est quand même très bien, on va se le dire. On a eu 43 cas confirmés dans la dernière journée. Excusez, un peu plus que 50 cas par jour, mais on a eu 43 cas confirmés dans les 24 dernières heures. Donc, c'est pas beaucoup. On se souvient qu'on a déjà été, il y a quelques mois seulement, au-dessus de 1000 cas par jour, 1200, 1300. On a frôlé le 1500 nouveaux cas par jour. Là, à 43, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, surtout que dans la capitale nationale, la région de Québec, on est à 2-3 nouveaux cas par jour. C'est pas des chiffres pour lesquels il faut s'affoler. Cependant, il y a un mais, il y a quand même un très, très gros mais. Il est important. Il est important de le souligner. Il y a un très gros mais. Et ce mais-là, c'est le variant Delta, qui est un variant du coronavirus qui est un peu plus résistant au vaccin, mais qui est surtout beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux. Ce variant-là, il commence à se répandre au Canada, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique. Il s'est répandu déjà en Europe. Il y a une quatrième vague qui s'amorce présentement en Europe, et c'est à cause de ce variant Delta-là. Et c'est ça qui fait vraiment très, très peur au gouvernement du Québec. Donc, c'est une espèce de course contre la montre, essayer d'avoir la population la plus vaccinée possible, la plus protégée possible, pour essayer d'éviter la quatrième vague, de s'en sortir complètement avant que quoi que ce soit ne commence. Et pour l'instant, on n'est pas si mal. Au cumulatif, on a, en date d'aujourd'hui, 6,1 millions de personnes qui sont vaccinées au moins la première dose et 3,7 millions de personnes qui sont vaccinées aux deux doses. Donc, c'est vraiment énorme, c'est gros. On effrôle le 50% de la population âgée de 50% et plus qui est vaccinée des deux doses. C'est bien. On est en avance par rapport aux objectifs. On est en avance par rapport à ce qui avait été planifié par le gouvernement. Mais la grosse question, ce qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être suffisant? Et c'est ça tout le nœud du problème, c'est est-ce que ça va être suffisant? Donc, on se dit, il faut pas seulement qu'on soit en avance, il faut qu'on soit les meilleurs possibles. Et c'est là que le gouvernement va sortir ses deux gros outils, la carotte et le bâton. Ou dans ce cas-ci, plus particulièrement, le passeport vaccinal et le concours vaccinal ou l'autovax, pour faire un mauvais jeu de mots avec l'automax. Donc, le passeport vaccinal, c'est une idée qui est quand même très controversée. Très, très controversée parce que c'est une pièce de documentation qui va être une pièce de documentation officielle fournie par le gouvernement du Québec qui va ici se trouver de manière distribuée de manière électronique un PDF avec la preuve que tu as été vacciné, quel vaccin tu as reçu et les dates auxquelles tu les as reçues, ainsi qu'un code QR que tu peux utiliser, que tu peux juste mettre sur ton cellulaire pour que ce soit plus facile d'accès, plus facile d'utilisation. Bon, pourquoi est-ce que c'est controversé le passeport vaccinal? C'est parce que avec cette pièce de documentation-là, il serait possible d'interdire l'accès, d'empêcher l'accès à une partie des services, une partie des établissements, à la population qui n'est pas complètement vaccinée. Ce qui est quand même une forme de discrimination plutôt importante. Si on pense que le vaccin, ça fait partie du libre choix, que ça fait partie du libre arbitre, que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est une décision personnelle, dans ce cas-là, mettre le passeport vaccinal, c'est une pas si pire grosse restriction qui vient de la part du gouvernement. On peut comprendre pourquoi est-ce que ça peut en frustrer quelques-uns, quand même. On peut comprendre pourquoi ça peut en frustrer quelques-uns. Et donc, le gouvernement du Québec veut quand même utiliser ça parce que c'est une très grosse menace et il veut l'utiliser à partir de septembre. À partir de septembre, il y aura un passeport vaccinal en place au Québec qui interdira l'accès aux activités à risque élevé regroupant un nombre limité de personnes, comme par exemple les gyms, les sports d'équipe, les bars, les restaurants, ainsi que dans les activités à risque modéré ou faible regroupant un plus grand nombre de personnes, arts et spectacles, festivals, grands événements, matchs sportifs, etc., aux personnes qui n'ont pas reçu les deux doses. Ce qui est quand même beaucoup d'activités de loisirs, de récréation. La nuance que le gouvernement met ici sur son passeport vaccinal, le gouvernement du Québec met sur son passeport vaccinal, c'est que elle est double. Premièrement, aucun service essentiel ne sera refusé à la partie de la population qui refuse de se faire vacciner. Ce qui veut dire que c'est essentiellement la job du secteur privé de discriminer. Le secteur public, donc tout ce qui est service essentiel, on parle d'éducation, on parle de santé, on parle de services sociaux, services directs aux citoyens de la part des paliers de gouvernement. Tout ça, ça restera accessible. C'est vraiment tout ce qui est le surplus qui va peut-être être très restreint si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner aux deux doses au 1er septembre 2021. Donc, on te dit, on va pas t'empêcher de vivre, on va pas t'empêcher de travailler, on va pas t'empêcher d'être un citoyen qui contribue à la société. Par contre, on va t'ôter ton fun, on va t'ôter tes nananes, et c'est comme ça qu'on espère encourager, motiver un petit peu la population du Québec à aller se faire vacciner un petit peu plus, parce que on le sait, on le voit, le taux de vaccination, il diminue en ce moment. Les gens se font vacciner un peu moins vite, un peu moins vite. Si on regarde la moyenne, la moyenne hebdomadaire de deuxième dose administrée quotidiennement, elle est sur un plateau, voire même sur une courbe un petit peu descendante depuis une semaine ou deux, ce qui est assez inquiétant, ce qui est quand même assez inquiétant. On ne veut pas lâcher la patate. Oui, on a 50% de la population qui est vaccinée à deux doses, mais on aimerait ça que ce soit 100% de la population des 12 ans et plus du Québec qui soit vaccinée à deux doses. Donc, les deux nuances que le gouvernement met à son passeport vaccinal, c'est premièrement, tous les services essentiels seront quand même offerts. Et deuxièmement, il va uniquement implanter le passeport vaccinal si la possibilité d'avoir accès à deux doses a été offerte à toute la population québécoise âgée de 12 ans et plus, et si la technologie le permet pour que ce ne soit pas compliqué d'utilisation. Bon, pour l'instant, ça devrait aller. Pour l'instant, ça devrait aller. N'importe qui peut présentement prendre rendez-vous pour une première et pour une deuxième dose de vaccin. La première étape est déjà remplie. La deuxième étape, on le sait pas. C'est derrière des portes closes que ça se décide. C'est derrière des portes closes que ça se discute tout ça. Mais le gouvernement assure que ça devrait être possible d'être mis en place pour le 1er septembre 2021. Donc, pour faire une histoire courte, d'ici le 1er septembre 2021, allez vous faire vacciner. Sinon, le gouvernement va potentiellement vous empêcher d'aller dans des restaurants, d'aller dans des bars, d'aller dans des gyms ou d'aller dans des grands festivals, des grands concerts, voire des matchs sportifs aussi. À l'inverse, le gouvernement ne veut pas juste utiliser le bâton, dire non, 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 on fait de la répression. Il veut aussi encourager de manière un petit peu plus positive, en donnant des récompenses. En donnant ici une loterie vaccinale, qui c'est donc une espèce de l'auto-vax, l'auto-COVID. Ça a plusieurs noms, c'est pas encore complètement décidé. Mais le concept, c'est que toutes les personnes qui se sont faites vacciner aux deux doses, vont pouvoir s'inscrire à un concours. Un concours où est-ce qu'ils font simplement s'inscrire sur un site du gouvernement et ils sont inscrits pour tous les tirages et il y aura 2 millions de dollars de prix à gagner. Donc, 4 tirages les vendredis 6, 13, 20 et 27 août. Donc, chaque vendredi du mois d'août, il va y avoir un tirage. Donc, vous devez vous inscrire avant le mois d'août ou durant le mois d'août pour avoir des tirages, pour avoir des chances d'avoir accès à ces tirages-là. C'est 150 000 $ par prix pour les personnes de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose. Et pour les jeunes de 12 à 17 ans, à chaque tirage, c'est 2 bourses d'études de 10 000 $ C'est quand même pas rien. C'est quand même vraiment pas rien. Il faut le reconnaître. Et également, le vendredi 3 septembre, donc le premier vendredi de septembre, les adultes adéquatement vaccinés qui seront inscrits au concours vont pouvoir recevoir 1 million de dollars. Donc, quatre petits lots de 150 000, un gros lot de 1 million pour les 18 ans et plus. Et pour les jeunes de 12 à 17 ans, on a 8 petit lot de 10 000 $ et 16 gros lots de 20 000 $ chacun. C'est quand même pas rien, c'est quand même non négligeable. Le but est vraiment très, très clair. C'est un objectif avoué de dire on veut le plus possible encourager la population québécoise à aller se faire vacciner maintenant. Pas demain matin, pas dans deux ans. On veut se faire vacciner maintenant. Parce que l'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale complète de 75 % chez les 12 ans et plus d'ici la fin août. On est présentement à 48 % On était à 48 % en date de hier, le 16 juillet à midi. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. On veut aller chercher 50 % de plus que ce qu'on a maintenant. Donc, il ne faut pas lâcher la patate. C'est pour ça que le gouvernement donne cet incitatif-là, donne cet encouragement-là d'aller se faire vacciner en sortant le cash, dans le fond. En sortant le chéquier, on dit « Oui, on va vous mettre une mesure de répression à partir du 1er septembre, mais avant le 1er septembre, on vous donne des bonbons, on vous donne une carotte en avant pour vous inciter à aller dans cette direction-là. » Donc, la direction du gouvernement, elle est vraiment très, très claire. Et on voit que c'est une priorité. On voit que c'est vraiment une priorité de mener à bien cette grande campagne de vaccination-là et essayer d'aller le plus possible battre le variant Delta dans cette course contre la montre. parce qu'on sait que, justement, il y a une nouvelle vague d'infections dans plusieurs pays, notamment en Europe, parce qu'il est présentement à 8 % des cas au Québec. Il était à 5 % des cas seulement la semaine dernière. Donc, c'est une inquiétude du gouvernement. On fait un petit résumé. Il va y avoir un passeport vaccinal et une loterie vaccinale pour encourager la population du Québec à se faire vacciner contre la COVID-19. Donc, nous autres, HS94-3, on trouve que c'est pas une mauvaise idée. Allez donc vous faire vacciner tout le monde. On veut essayer de reprendre toutes les activités avec le moins de restrictions possible, le plus rapidement possible. On va donc prendre une petite pause musicale. On va aller écouter la chanson All Zay de Fouki. C'est toujours Guillaume Bédard qui vous parle au micro de Chiz 94.3. Vous écoutez Avant de sortir.
Back then, je comptais chaque scène, yeah. Trois boys sur un Pac-Man, yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayen, yeah. J'fais du rap à tous les matins, yeah. My bad, j'fais les bike jam, yeah. J'concrétise ce que j'imagine, yeah. All in sur mon avenir, yeah. Rap, 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 feeling nausea, yeah. Et on me blesse, bro. So for reach the best spot, yeah. Plateau Zay fait les best stuff. Dans la Michelle, juste des beignets sur mon desktop. Puis demande à Steven. J'ai sold out tous mes events, yeah. Oh, puis baisse le game, man. Sinon, j'baisse le game, man. Yeah. Clap sur le beat comme j'clap sur le ass. Flip flop, fais les trick back, flip sur le track. Yeah. On me lise le fire, yeah. Pas de mauvais départ, juste la ligne d'arrivée qu'on a le devoir de partir là. Sauf on make it right, là pour un millénaire. Yeah, on n'a jamais fini de blow avec la familière. Sauf on make it live, et prêt à vivre le rêve. Parce qu'on a rappé dans tous les coins du périmètre, yeah. J'fume des bello dans mon bendo. Fuck it, j'm'en prends le métro. Juste des haters dans mon rétro. De plateau et jusqu'à center. Cuisine just les beignets. J'suis jet up et sur mes vendeurs. Back then, j'comptais chaque scène, yeah. Trois boys sur un Pac-Man, yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayen, yeah. J'fais du rap à tous les matins, yeah. My bad, j'fais les bike jam, yeah. J'concrétise ce que j'imagine, yeah. All in sur mon avenir, yeah. Rap, rap, rap. Yeah.
Back then, j'comptais chaque scène, yeah. Trois boys sur un Pac-Man, yeah. Couche tard pour un Martin, yeah. J'donne du pouvoir à ta gardienne, yeah. J'ai rien à colisser de rap cap, yeah. Dollar commandité par Arden, yeah. All in sur mon avenir, yeah. Rap, 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 feeling nausea, yeah. Tu peux pas fuck avec le pen game. J'écris juste à droite, ça c'est mon Jean-Marie de pen game. Allergique au rapper cap, ça c'est mon EpiPen game. J'te laisse le dead man walking sur mon Sean Penn game. Champagne popping, on va le verser sur vos tombes. Mais non second guessing, vous allez décéder sous nos bombes. J'ai le vétéran status, première place au marathon. J'étais là avant que les rapper cap y fassent de reggaeton. Get it on, donne le papier, j'veux des stacks, c'est pas des perdièmes. Smack un fucking mumble rapper avec un becherel. Des broke dudes, peux pas fuck avec le spookiness. Old school, j'rappe des déjà avant que Fouki naisse. On met le game en chocos. Steve Jolley, j'fais les choses avec le bro Stone Cold. Steve Jolley, wind blows dans notre dos. Puis on va blow up jusqu'au sommet. Gun blows sur les fosses. On laisse des hoes dans ton bonnet. Long road, le pas si long, j'étais broke. Puis j'déconnais, prends jamais de pause. Travaille on the low sur les projets. Quelques onces dans le styrofoam dose. Dans le gobelet, j'suis le gold sur le microphone. Bro, tu me connais. De Saint-Eustache jusqu'à Plateau Est. Quelques petits bodies qui ont jamais rien coulé. Sauf le ralco test. De Plateau Zay jusqu'à Sainte-Eux. Shout out tous les haters, j'porte le 7 sur mon blazer.
Back then, j'comptais chaque scène, yeah. Trois boys sur un Pac-Man, yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayen, yeah. J'fais du rap à tous les matins, yeah. My bad, j'fais les bike jam, yeah. J'concrétise ce que j'imagine, yeah. All in sur mon avenir, yeah. Rap, 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 feeling nausea, yeah.
Vous écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3. Rebonjour à tout le monde. On est encore avec l'actualité de la semaine ici à Avant de sortir. Et là, bon, bah, c'est de l'actualité de la semaine passée, mais on a manqué une semaine, donc on va quand même en parler parce que c'est assez important. Ça fait partie de l'actualité politique. Le cœur de l'actualité politique en ce moment, dans les grands bouleversements en politique québécoise, c'est l'apparition du Parti conservateur d'Éric Duhaime qui vraiment a un impact assez grand sur l'image qu'on se fait de la politique québécoise. On avait, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait vraiment deux grands partis qui s'affrontaient. Aujourd'hui, on est vraiment ailleurs, on est rendu définitivement multipartite et donc plusieurs partis qui s'affrontent. Et l'apparition de ce nouveau parti-là, ça brasse un petit peu les cartes. On en avait quatre partis politiques qui étaient bien implantés quand même. Le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec, ainsi que la Coalition Avenir Québec, la CAQ, bien sûr. Mais là, le Parti conservateur, qui est rendu avec officiellement une députée, tente de se frayer une place, tente d'essayer d'avoir le plus de lumière possible, d'avoir le plus d'espace possible. Et une des manières dont il veut faire ça, c'est d'essayer d'organiser des rassemblements un petit peu partout au Québec. Cependant, la semaine dernière, Éric Duhaime s'est vu refuser l'entrée dans plusieurs restaurants et établissements du Saguenay. Parce que les organisateurs avaient oublié de mentionner aux établissements dans lesquels ils voulaient se rencontrer qu'il y allait être là. Donc, c'était des rassemblements un petit peu discrets, un petit peu en dessous de la table, alors que normalement, quand tu organises des rassemblements, quand tu organises des événements politiques, la première étape, c'est de contacter les établissements dans lesquels tu veux faire ça pour s'assurer qu'il est correct, pour s'assurer qu'il y a de la place, pour s'assurer que tout va bien se passer. Donc, Éric Duhaime s'est dit victime de censure, s'est dit victime de boycottage parce que les établissements qui ont refusé des rassemblements du Parti conservateur du Québec en ont fait l'annonce, entre autres à travers leur page Facebook, avec du langage un petit peu coloré des fois, en disant, en se positionnant vraiment très officiellement contre le Parti conservateur, en disant « on veut pas d'eux autres chez nous, c'est pas la place, s'ils veulent faire des rassemblements, qu'ils aillent les faire ailleurs ». Essentiellement, c'est ça le message. Mais c'est surtout que Éric Duhaime a pas bien organisé ses choses. Donc, on peut pas vraiment dire qu'il s'est fait... On peut pas vraiment y aller avec un cri du cœur en disant « Non, c'est de la censure. Non, les gens refusent complètement le Parti conservateur. » C'est surtout que Éric Duhaime organisait ça sur sa page Facebook, sur la page Facebook du Parti conservateur du Québec, en disant « On va être à tel restaurant à tel moment. » Mais... Mais si Éric Duhaime n'avait pas contacté les restaurateurs, n'avait pas contacté les bars dans lesquels il voulait y aller, ça tient pas vraiment la route de dire qu'il est victime de discrimination. Et c'était pas annoncé. Il voulait pas que les gens sachent qu'il est là. Bon, est-ce que c'était un petit peu prémonitoire dans le sens où il se disait « si j'annonce que je vais y aller, ben les gens vont me virer de bord ». Peut-être. Mais c'est pas ça qui s'est passé. On va donc voir ce qui va se passer pour la suite de sa tournée, voir s'il va apprendre de ses erreurs ou voir si ça va exploser de plus belle. Et on a déjà Mathieu Bock-Côté qui a dit au micro de Vincent Dessureau sur Cube Radio que c'était de la discrimination, que ça avait pas d'allure. On va voir à quel point ce spin-là va durer longtemps. Pour l'instant, on va prendre une petite pause publicitaire et on vous revient tout de suite après avec d'autres nouvelles. On va aller parler de nominations partisanes dans le milieu des arts et de la culture. Vous écoutez toujours Avant de sortir sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça. Les Architectes du son.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Mathis a dit que je suis bourré de talent, ça je suis juste bourré. Mes histoires et des rognes ne tiennent plus debout, j'ai une mémoire retrouvée. Mon crayon touche la feuille comme les hélicards, mais pas pour les touches d'ivoire. Sous la neige, j'ai caché au les restes de l'hiver, ferme les yeux pour te voir. Comment? Si je dis je t'aime, elle répond mal en plus. Elle se prend pour Gainsbourg, et moi une de ses puces. Si je dis je t'aime, elle répond mal en plus. Elle se prend pour Gainsbourg, partie comme elle est venue. Il est même quand ça l'arrange. Elle m'a pris sur les gardes. Suivi par la lune, l'astrologie, le monde ne tourne pas autour de toi. Me voilà déchiré comme une feuille de papier. Faudrait le voir pour le croire. Je trouve encore tes cheveux sur mes vêtements. Si elle fait une gueule d'enterrement, je suis mort d'ennui. T'entends parler, même la vérité ment. Ça fait peur. Et puis même quand ça l'arrange, elle m'a brisé, regarde le change.
Écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour tout le monde. On plonge directement dans un des sujets chauds de la semaine en actualité politique. C'est celui des nominations partisanes dans le milieu des arts et de la culture. Bon. Pourquoi est-ce que ça choque beaucoup tout ça? C'est d'abord et avant tout parce que le milieu des arts et de la culture, c'est un milieu qui est particulièrement sensible aux décisions arbitraires, dans le sens où la plupart de ce qui se fait en ce moment au Québec est très fortement subventionné, est très fortement lié au secteur public. Donc, les personnes qui décident, les têtes dirigeantes des grands organismes responsables des différentes choses dans le milieu des arts et de la culture, sont nommées par le gouvernement en place, qui présentement est le gouvernement de la Coalition Avenir Québec dirigé par François Legault. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Coalition Avenir Québec, la CAQ, du temps où elle était à l'opposition, déchirait sa chemise, faisait tout un show, râlait et re-râlait dès qu'il y avait une nomination qui semblait minimalement partisane qui était faite, que ce soit par le Parti québécois ou par les libéraux. Et là, depuis qu'ils sont élus en 2018, il y a eu 7 nominations qui sont vraiment jugées comme étant très partisanes qui ont été faites. On a Nathalie Verge, sous-ministre de la Culture. On a Denis Dolbecq, président de la Régie des alcools, des courses et des jeux. On a Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York. On a Marie-Ève Bédard, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé. Guy Leblanc, PDG d'Investissement Québec. Stéphane Lebouillonnec, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. Et Marie Grégoire, PDG de la BNQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est toutes des nominations partisanes dans des postes particulièrement importants. Et surtout, Stéphane Lebouillonnec et Marie Grégoire, c'est les deux qui ont vraiment le plus fait réagir. Stéphane Lebouillonnec, c'est un des très proches conseillers de François Legault qui était supposé être candidat aux dernières élections, mais dont la candidature a été écartée après qu'il ait été révélé qu'il faisait des prêts, Stéphane Lebouillonnec, à des taux assez rapace. On appelle ça des requins dans le milieu, vraiment des gens qui vont prêter de l'argent rapidement à des gens qui sont dans des situations financières difficiles et qui, après ça, vont s'attendre à avoir des intérêts énormes sur ces prêts d'argent. C'est pas illégal, mais c'est pas la chose la plus éthique qui soit comme manière de faire de l'argent. Donc, Stéphane Lebouillonnec n'avait pas été retenu comme candidat finalement, pour s'éviter ces enquêtes-là, d'avoir ça trop dans les médias. Et à la place, il a été nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du Premier ministre. Donc, c'est pas un mauvais poste. C'est vraiment, vraiment pas un mauvais poste. On peut dire ça comme ça. Pour ce qui est de Marie Grégoire, qui a été nominée la semaine dernière comme PDG à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il faut savoir que la BANQ, la Grande Bibliothèque à Montréal, à Berry-UQAM, si vous êtes connaisseur, connaisseuse, c'est la plus grande institution de bibliothéconomie. C'est le nom de la science, la bibliothéconomie, la science des bibliothèques. Donc, c'est la plus grande institution de bibliothéconomie qu'on a au Québec et elle s'apprête à démarrer un processus très important de numérisation de la grande majorité de ses possessions, de son contenu, des livres, des documents qu'elle possède. Donc, c'est un moment charnière, vraiment, dans l'histoire de la BNQ. Et les différents spécialistes avaient demandé que ce soit un spécialiste qui soit nommé essentiellement à la tête de la BNQ et le gouvernement a décidé de nommer Marie Grégoire. Qui est Marie Grégoire? Elle est surtout connue pour avoir été aux ex à RDI pendant de plusieurs années. Elle a été députée de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ de Mario Dumont, pendant quelques années. Je pense même pas 3 ans, donc un très court laps de temps. Et avant ça, c'était une personnalité de la télévision. Donc oui, c'est une personnalité politique, c'est une femme qui représente bien la droite québécoise, c'est une personne qui est très très proche des cercles caquistes. Son conjoint, qui est professeur ici à l'Université Laval, est un des grands conseillers de François Legault. Eh bien, elle n'a aucune expérience en gestion de bibliothèque, elle n'a aucune expérience en bibliothéconomie, et pourtant, elle s'est fait nominer à la tête de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bon, normalement, dans des nominations comme ça, il y a quand même une courte liste qui est présentée. Donc, le conseil d'administration de l'organisme qui se cherche un nouveau président, une nouvelle tête dirigeante, va soumettre une courte liste de candidatures potentielles, et le ministre ou la ministre responsable va faire son choix parmi la courte liste. Donc ça, ça a fait beaucoup réagir. Beaucoup, beaucoup réagir. Et entre autres, Yves Gingras, professeur d'histoire et de sociologie des sciences, a exigé la démission immédiate des membres du conseil d'administration en expliquant la chose suivante. De deux choses l'une. Ou bien les membres du CA, dont plusieurs sont des spécialistes du secteur des bibliothèques ou représentent des universités qui offrent des formations en archivistique et en bibliothéconomie, ont proposé l'ex-politicienne et donc nié la nécessité de détenir une expertise spécifique pour diriger BNQ, ou bien ils n'ont pas proposé le nom de cette personne, mais leur conseil n'a pas été suivi, ce qui constitue un désaveu. Donc, dans les deux cas, ça fait beaucoup réagir le secteur. L'ancien directeur des bibliothèques numériques de l'Université Laval, Guy Teasdale, a d'ailleurs commencé à faire circuler une pétition en ligne intitulée « Annuler la nomination de Marie Grégoire comme PDG de BANQ » qui avait plusieurs signatures, plus de 1000 signatures. Il y a en fait plus de 2000 signatures qui ont été récoltées par cette pétition en ligne. On peut donc comprendre que ça fait beaucoup réagir, mais là, cette semaine, ça récidive. Parce que le Journal de Québec, le Journal de Montréal, le bureau d'enquête du Journal de Québec, Journal de Montréal, ont révélé qu'il y avait eu des pressions de la part de la ministre de la Culture pour faire nominer Maka Koto, qui est un ancien député du Parti québécois, qui est un poète d'origine camerounaise, si je ne me trompe pas, donc pour faire nominer Maka Koto au poste de directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, le CMADQ. Bon, c'est une autre nomination partisane, parce qu'encore une fois, Maka Koto, oui, c'est une personne qui est dans la sphère politique, c'est une personne qui est dans la sphère plus large des arts de la communication. C'est un poète d'abord et avant tout, c'est présentement un chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais ce n'est pas un dirigeant d'établissement d'éducation supérieure, ce n'est pas un spécialiste de la musique ni de l'art dramatique. Et donc, on voit ça vraiment comme une nomination partisane, particulièrement parce que il a posé sa candidature et son nom n'a pas été retenu pour être mis sur la courte liste qui a été déposée à la ministre de la Culture, Nathalie Roy, le 9 avril dernier. Cependant, la courte liste comportait 2 noms. Donc, on s'entend que choisir entre 2 personnes, ça ne devrait pas prendre tant de temps que ça. Cependant, depuis le 9 avril dernier, aucune décision officielle n'a été prise par la ministre de la Culture pour ce poste de direction générale-là. À l'inverse, la ministre a décidé de faire démissionner de force la présidente du conseil d'administration du SCMADQ en nommant une nouvelle personne à la présidence avec un mandat exceptionnellement court, un mandat de seulement 6 mois, en lui demandant de bien considérer, de considérer très sérieusement la candidature de Makakoto. Donc, est-ce que c'est de l'ingérence? Beaucoup pensent que oui, ça a fait réagir énormément. Entre autres, ça a beaucoup fait réagir la députée Saint-Hilaire du Parti libéral du Québec qui n'en revient pas qu'on veuille autant une candidature si spécifique alors que 2 noms avaient déjà été proposé. Donc, est-ce que tout ça, ça va revenir? Est-ce que ça va revoler dans la face de la coalition Avenir Québec? Ou est-ce que c'est un enjeu qui est tellement spécifique, qui est tellement local, qui est tellement ciblé que ça va juste passer en dessous du tapis? C'est à voir, mais on voit vraiment que c'est une tactique qui commence à devenir récurrente, qui commence à devenir vraiment très récurrente pour la coalition Avenir Québec, pour le gouvernement québécois, de vouloir nominer ses amis à des postes clés, particulièrement dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs de la culture. Mais la question, c'est aussi, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose, tant que ça, politiques partisanes? Les nominations partisanes. Bon, je vais faire un petit peu l'avocat du diable ici, mais c'est un réel débat en administration publique. On se pose la question souvent, est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est un spécialiste du milieu le plus possible, qui est complètement neutre pour diriger un organisme, ou est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus affilié sur les considération du gouvernement, parce que on s'entend que en termes de légitimité, c'est le gouvernement du Québec qui a été élu par la population pour mettre en place des réformes, pour mettre en place des séries de programmes pour aller dans une direction spécifique. Maintenant, on devrait donner à ce gouvernement-là les moyens de ses ambitions, les moyens de réaliser ces projets-là, d'aller dans cette direction-là. Mais en même temps, en termes de compétences, c'est sûr qu'une personne du milieu, une personne qui a une certaine expertise, va avoir beaucoup plus de compétences. Mais est-ce que cette personne-là va être d'accord, va être volontaire, va avoir toute la motivation, l'enthousiasme nécessaire pour aller dans la même direction que le gouvernement? Pas toujours. Et c'est ça l'espèce d'équilibre qui est dur à atteindre. Et c'est pour ça qu'on a autant de nominations partisanes en ce moment. Le gouvernement, décidément, va pencher beaucoup plus du côté de la direction générale plus que du côté de l'expertise spécifique, de la compétence, en se disant les fonctionnaires plus bas échelons vont avoir l'expertise, vont avoir la compétence. Ce qu'il faut au niveau de la direction générale, c'est vraiment quelqu'un pour les guider. On va voir, comment ça se passe pour eux autres, cette décision-là, cette prise de position politique, parce que ça fait vraiment réagir quand il y a des nominations partisanes. Ça chamboule des milieux, ça fait pas juste des heureux. On le voit présentement avec la nomination de Mme Grégoire à la direction de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. On va prendre une petite pause musicale. Vous écoutez toujours Guillaume Bédard au micro à Avant de sortir, votre revue hebdomadaire de l'actualité. On va aller écouter la chanson « Pitou » par Les Louanges et on vous revient tout de suite après pour parler du projet, du défunt projet Laurentia du Port de Québec.
I moi je m'en la garde en bon pied tour.
Tu m'as jamais fait tes enfants. C'est moi qui t'ai caché que par la peur.
Méchant loup, des balles d'argent, c'est ça que je shoot. Que j'en vois un sera à ton cou. Quelque chose, je suis déjà à genoux.
C'est moi jamais de la fête aux enfants. C'est moi qui t'ai caché qui prend la peur. C'est moi jamais de la fête aux enfants. C'est moi qui t'ai caché qui prend la peur. C'est moi jamais de la fête aux enfants. C'est moi qui t'ai caché qui prend la peur.
Vous écoutez toujours Avant de sortir avec Guillaume Bédard sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour tout le monde. Avec notre, on va enchaîner tout de suite avec notre dernier sujet aujourd'hui, la mort du projet Laurentia. Bon, tout d'abord, c'était quoi ça exactement, le projet Laurentia? C'était un projet du port de Québec qui était vraiment très, très, très énorme. Le port de Québec qui voulait développer le plus possible un quai en eau profonde. Ce qui voulait dire de rajouter, étendre 600 mètres plus loin dans le fleuve les quais du port de Québec pour pouvoir accueillir des conteneurs et des bateaux qui sont plus gros, donc plus de conteneurs, plus de matière, avoir un meilleur accès au commerce international, parce qu'on le sait que le fleuve Saint-Laurent, qui est une voie maritime très importante qui permet de se rendre non seulement à Montréal, à Toronto, mais aussi dans le secteur des Grands Lacs, à tout le Midwest américain. Donc, c'est vraiment une voie d'accès privilégiée. Et à Québec, on a géographiquement, on a un avantage très important qui est celui d'avoir l'eau la plus profonde qui soit sur les grands ports de toute la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Malheureusement pour le port de Québec, le gouvernement fédéral ne donnera pas son aval au projet Laurentia, pour la simple et bonne raison qu'il ne respecte pas les conditions mises par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Donc, à la suite d'une évaluation environnementale rigoureuse et exhaustive, l'agence avait conclu que le projet de quai en eau profonde dans le secteur Beauport était susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur le poisson et l'habitat du poisson, la qualité de l'air et la santé humaine, les conditions socio-économiques, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. Donc, plusieurs choses là-dedans. Donc, ça fait mal à l'environnement, ça fait mal à la santé humaine et ça fait mal aux droits traditionnels des peuples autochtones. Donc, ça fait pas de bien à beaucoup de gens, cette histoire-là. Ça fait beaucoup de mal à plusieurs personnes. Donc, les opposants au projet Laurentia, bien sûr, se sont réjouis. Entre autres, le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, qui a dit que c'était le temps de célébrer. Pour ce qui est de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, elle a réagi sur Twitter en disant qu'elle était déçue et qu'il fallait vraiment continuer à se battre pour avoir des projets économiques porteurs dans la capitale nationale. Du côté du gouvernement fédéral, c'est le ministre qui est président du Conseil du Trésor, qui est député de Québec, Jean-Yves Duclos, qui a voulu défendre la décision de son gouvernement en disant qu'en 2021, il faut que le développement économique aille de pair avec la protection de l'environnement. Quand on parle de santé des gens, de santé de l'environnement, c'est pas une distraction pour les gens, c'est une préoccupation. Le rapport de l'agence était très clair à l'effet que si le projet allait de l'avant, les effets seraient négatifs, importants et directs à la fois sur les milieux naturels, sur la qualité de l'air et sur la santé des gens dans les quartiers avoisinants de Limoilou et Maizeray. D'ailleurs, merci beaucoup au Soleil et à Elisabeth Fleury pour d'avoir rapporté ces paroles-là. Donc, on voit vraiment comment est-ce que les acteurs se positionnent sur ces différents enjeux-là. Mais là, ce qu'on a appris cette semaine par rapport au projet Laurentia, c'est que le port de Québec, qui est responsable de ce projet-là, aurait déboursé 14 millions de dollars uniquement en publicité pour faire la promotion du projet Laurentia. Donc, 14 millions de dollars pour faire la promotion du projet Laurentia par le port de Québec, c'est une très, très, très grosse somme d'argent, trop grosse pour plusieurs opposants au projet, surtout parce que c'est un projet qui, c'est tout cet argent-là, c'est des fonds qui viennent directement des fonds publics. Le port de Québec, c'est une institution parapublique qui gère des terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral. Donc, ce sont des deniers publics qui auraient payé cette publicité-là pour un projet qui ne respectait pas les normes fédérales d'environnement. Et on sait que le port de Québec ne voulait pas se soumettre à un BAP, à un Bureau d'audience publique en environnement, qui est une institution provinciale, parce que les normes québécoises sont beaucoup plus sévères que les normes fédérales. Et donc, il n'a même pas passé les normes fédérales, c'est tout dire. Donc, dépenser un total de 13,8 millions de dollars pour de la publicité, de la promotion pour ce projet-là, pour Véronique Lalande de l'initiative Vigilance Port de Québec, c'est indécent. Donc, vraiment, on peut regarder ça, on peut regarder tout l'argent qui a été investi dans ce projet-là, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'argent? Pourquoi est-ce que collectivement, en tant que société, on a voulu avoir ça? Et est-ce que, en fait, c'est une décision collective, c'est une décision de la société ou c'est une décision du port de Québec qui a pris l'argent de la société? C'est ça vraiment le débat qu'il y a présentement autour de l'argent qui a été dépensé par le port de Québec pour faire la publicité du projet Laurentien. J'aimerais terminer en vous remerciant, chers auditeurs, d'avoir passé la dernière heure de radio en ma compagnie. C'est toujours très agréable de faire le tour de l'actualité, de faire ce tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Puis je vous souhaite une très belle soirée en ce samedi soir. C'était Guillaume Bédard au micro de Chiz 94.3 pour cette édition de Avant de sortir.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de CHIZ 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Ton galant sur mon Brigitte Bardot.